France Inter.
Monsieur Savini, voulant nous préparer à l'idée de nous nourrir de chair humaine, nous dit d'un ton d'inspiration. Mes amis, nous n'avons qu'un seul moyen de prolonger notre existence et peut-être de nous sauver. Il faut que les morts nourrissent les vivants. Aussitôt, il se mit à l'œuvre et avec plusieurs autres personnes, commencèrent ces repas sacrilèges auxquels nous devons la vie. Alors, donc ça se passe le troisième jour. Et donc après, il écrit « Je persiste à dire que les officiers en général ont été les premiers à manger de ces viandes sacrilèges. Je fus malheureusement de ce nombre. »
Vous en êtes sorti comment de la lecture de ce livre ? Cette histoire de cannibalisme, ça vous a quand même beaucoup travaillé ?
Moi, ça m'a beaucoup travaillé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que de manger un autre homme ? Qu'est-ce que c'est que de se faire manger, de disparaître ? J'ai vraiment abordé cette question-là par la sculpture et par des petites vidéos que j'avais faites aussi à l'époque de viscères, de digestion. Comprendre l'assimilation d'un corps, qu'est-ce que c'est d'avoir en soi un corps qui est l'équivalent d'une autre. À cette époque, les questionnements familiaux, ça m'intéressait pas tellement, c'est venu bien après. Là, j'ai fait un travail très introspectif, très personnel. Je me suis lancée dans une grande sculpture du radou. La plus grande possible. Donc à l'époque, j'avais un atelier dans la cave de ma petite maison de banlieue. Et j'avais une pièce d'une dizaine de mètres carrés. Donc j'avais fait le radeau qui touchait trois des murs de la pièce. Et après ça, j'ai continué sur plus précisément le cannibalisme. J'ai fait des sculptures. Donc j'étais très obsédée par cette histoire de tranches. J'ai fait des sculptures qui s'appellent les peaux. Que je voulais avoir la forme de tranche, mais qu'on puisse comprendre qu'il s'agisse d'humains. Donc j'ai restitué de l'humain dans une espèce de forme de chair, de viande. Le radeau, il a été sculpté dans des bois très particuliers. C'est du hêtre qui a attrapé un champignon d'humidité. C'est un bois très abîmé. Et donc ça allait parfaitement bien avec le sujet, voilà, des corps qui se défont dans la mer. Donc ici, il y a les outils. Ils s'appellent des goules. Donc voilà, j'en ai de différentes tailles, différentes largeurs, différents cintres. Donc je tape avec ça, une belle massette en laiton.
Sur la gouge.
Voilà. Et puis le deuxième effet de toutes ces sculptures, ça a été qu'à un moment, j'ai dû les exposer. Enfin, j'ai voulu les exposer. Et à partir du moment où j'ai voulu les exposer, on est rentré dans une autre phase. C'est-à-dire que la phase dans laquelle j'entraîne avec mon travail personnel ma famille avec moi. Puisque évidemment, ça devient public. Il a fallu commencer à parler.
Votre famille l'ont pris comment, du coup ? Parce que c'était la première fois qu'on parlait de cette histoire dans la sphère publique, en fait.
Bah, il y avait eu de la crainte, une espèce de peur un peu déconnectée de la réalité, je pense, qui est toujours un peu là. Il y a un historien qui m'a contacté, Michel Agnier. Il cherchait depuis longtemps à être en contact avec les Griffons du Bélé. Il avait écrit une lettre à mon grand-père... qui était arrivé un an après la mort de mon grand-père, qui était resté sans réponse. Enfin, ça faisait longtemps qu'il cherchait des descendants de Griffons du Bélé. Ben voilà, il m'a trouvé. On a commencé à correspondre et je lui ai envoyé très vite les annotations.
L'annotation qui devait rester dans la famille à voilà. Tout prix.
Voilà, j'ai fait ça.
Vous avez concerté la famille avant ?
Non, j'ai concerté personne. Mais je lui ai demandé de les publier qu'avec l'accord de mon père.
C'était la première fois qu'elles étaient lues par quelqu'un d'extérieur à la famille.
C'était la première fois, oui. J'avais envie que quelqu'un d'extérieur à la famille et qui connaissait le sujet sur le bout des doigts vienne le lire. Et alors là, j'ai appris énormément sur les résistances de la famille. Ce qui coinçait, c'est la précision dans cette histoire de massacre. C'est clairement ce qui coince le plus.
Son implication.
Et puis, toujours ce questionnement de est-ce qu'on est légitime à donner ses aveux? Et de la même manière, est-ce qu'on peut les garder? Est-ce qu'on a le droit de les garder alors qu'on nous les demande? Est-ce qu'il peut continuer à s'écrire des livres sans que ça soit pris en compte? Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort sur le radeau, j'ai l'impression que tout est bourré d'erreurs, du coup. Et c'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant de savoir qu'en fait, on pourrait changer d'histoire et puis on ne le fait pas. Donc avec mon père, on a travaillé avec lui pour lui donner une bonne partie des annotations concernant le radeau qui change justement l'histoire et tout ça. Il a donné son accord. Et
il a tout publié?
Non, sauf deux ou trois notes. Donc une bonne partie des annotations les plus importantes du radeau ont été publiées dans le livre de Michel Agnier paru en 2016. Après, il y a d'autres témoignages. Il y avait d'autres témoignages de seconde main qui venaient déjà mettre le doute. Donc, il y a quand même des historiens qui avaient flairé que Coréard et Savigny avaient maquillé un peu la vérité, mais on ne savait pas à quel point aussi précisément. Et puis, un jour, on m'a proposé d'écrire un livre. Et je l'ai fait. Ça a rassemblé 15 ans de ma vie de questionnement. Ça parle énormément de la transmission du tabou, comment il s'est cristallisé, comment il est passé d'un être à un autre jusqu'à moi. Et ça, voilà, ça a englobé vraiment toutes mes tentatives de dire le cannibalisme, la violence, le tabou et le fait d'être issu de ça, de comment ces chairs sont passées par mon sang, une espèce de mémoire de corps. Et ça a libéré vraiment quelque chose en moi. Mais ça reste difficile d'en parler librement sans avoir justement... voilà, l'écriture, on peut réfléchir, on peut faire attention à ce qu'on dit. Je me suis énormément lue.
Mais il y a eu un sentiment pour vous, un moment quand même, de trahir un peu ou... pas ce secret familial ou c'était une nécessité?
En fait, aussi, la grande différence avec mon livre et les tentatives d'avant, c'est que cette fois-ci, je me suis autorisée à prendre ma place. Parce que j'ai toujours eu vraiment beaucoup de scrupules, énormément de culpabilité à le faire. Je me suis sentie très illégitime d'utiliser les documents que mon père m'avait confiés. Et à la fois, ça fait tellement partie de moi, c'est mon travail, vraiment, c'est des années de travail. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai décidé que ça m'appartenait tout autant qu'importe quelle personne de ma famille.
Mais en plus, il y a la double question de la légitimité, puisque normalement, ce livre, vous auriez jamais dû y avoir accès, puisqu'il se transmet de père en fils aîné.
Oui, voilà, normalement, ça passe par les hommes uniquement, et à ceux qui ont des enfants mâles. Donc mon père n'a eu que des filles, et lui-même n'était pas l'aîné. Et moi, heureusement, voilà, j'ai eu droit grâce à lui. Mais... bon, après, le problème, c'est que quand c'est public, quoi. Mais je sais pas, je crois qu'il fallait le faire. Je pense pas avoir trahi mon ancêtre du tout, je crois pas.